Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et bonjour les amis, c'est Capture Mag Hebdo avec deux rois du cinéma puisque nous venons de tirer les fèves.
T'as encore de la galette sur la barbe, Rafik.
Pardon.
Et c'est Stéphane, bonsoir Stéphane qui a eu la fève.
Salut David.
Et Rafik, bah, la prochaine fois tu gagneras et tu es
non,
tout
non,
seul.
Non, mais je suis habitué, moi je suis un vieux, je suis mature, je laisse les enfants généralement récupérer la fève, ça les
d'accord.
Amuse beaucoup.
Moi j'aime bien la galette de toute façon, l'épiphanie c'est mon truc. Voilà, et sinon le cinéma c'est votre truc, et ce soir nous ne sommes que trois autour de cette table parce que Arnaud est toujours aux Bahamas je crois.
Ouais.
Et on a une petite pensée pour l'ami Julien Dupuis.
Oui. On est avec toi Julien.
Qui est malade.
Voilà, qui a quelques soucis. Ouais.
Voilà, donc on espère qu'il va aller mieux.
Ouais, on l'embrasse.
On l'embrasse très fort. Au programme ce soir les amis, nous allons parler de plusieurs choses et on va commencer par un film qui a l'air d'être une magnifique production sino-américaine ou sino tout court, je ne sais pas. Et c'est Stéphane qui va nous en parler, c'est La Grande Muraille avec Matt Damon et son arc et ses flèches.
Matt Damon.
Tu l'as vu c'est,
oui,
tu
oui,
l'as
alors,
ce matin.
C'est un film qui sort en salle cette semaine, donc mercredi 11.
Là je vous mets un peu de grande annonce là, parce que c'est quand même les voix
plus
françaises.
Plus puissante que tout ce que nous connaissons.
Wow. Ça fait peur, hein. Bon. Voilà, c'est comme d'habitude, hein. Il y a des gros bruits, il y a des gros effets sonores.
Pourquoi êtes-vous ici ?
Pour faire du commerce.
Mensonge.
Mensonge.
Vous êtes des voleurs.
Voilà, c'est des voleurs, c'est des méchants. Bon. La Grande Muraille.
La Grande Muraille de Zhang Yimou qui est sorti en salle le 11 janvier.
Mm-hmm.
Et qui pourrait se voir comme une espèce d'expérimentation, en termes de coproduction entre Hollywood et la Chine. Si tu te souviens, en fait, il y a quelques temps, on avait fait un épisode spécial sur Chinawood.
Sur Chinawood,
voilà,
exactement.
Qu'on conseille à nos lecteurs
de
réécouter, voilà. Et ça, c'est le fruit en fait de toutes ces collaborations entre Hollywood et la Chine, et notamment en fait sur le terrain de l'heroic fantasy, du gros blockbuster. Donc, c'est un des plus gros, blockbuster chinois, c'est même le plus gros budget en fait de l'année, mais il me semble même tout court en fait. C'est un film de fantasy qui se passe, comme son titre l'indique, sur la Grande Muraille, et qui raconte en fait comment deux voyous voleurs occidentaux en fait se retrouvent sur la Grande Muraille et doivent se battre aux côtés des Chinois pour se débarrasser d'une menace fantastique. Et c'est à peu près le pitch du film, voilà. Donc, alors avant sa sortie, le film a été accusé de whitewashing, évidemment, puisque coproduction oblige. On a effectivement Matt Damon d'un côté, Pedro Pascal, l'acteur de Game of Thrones, justement, qui joue Oberyn notamment dans la saison 4 et ce fameux épisode avec la montagne. Et on le voit aussi dans Narcos. Et t'as Willem Dafoe. Donc ça, c'est les trois acteurs occidentaux du film. Et tout le reste du casting, c'est casting chinois. Voilà. Donc t'as Andy Lau, t'as
du beau monde quand même.
Oh, mais c'est, encore une fois, c'est une très 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 grosse sortie. Hein. T'as Andy Lau, j'en passe quoi. Mais le truc, c'est que le problème du film, c'est surtout qu'en fait, c'est
t'as Jing Tian. Mais Jinkan, moi j'en ferais bien mon 4 heures. Hein. Elle est bien mignonne, hein. C'est l'héroïne du film.
D'accord, ok.
Merci, enfin, je dis ça, je dis rien.
Voilà, et c'est vrai qu'elle est mignonne. Mais le truc en fait du film, c'est surtout que quand tu regardes le film, le premier truc évident, c'est que quand je parle d'expérimentation, c'est vraiment en fait que t'as l'impression que tout le monde s'est posé la question de alors qu'est-ce qui plaît au public chinois. Et comment est-ce qu'on pourrait en fait le leur donner, quoi. Et donc t'as l'impression qu'en gros ce qui plaît au public chinois, c'est tous les money shots de tous les films d'heroic fantasy ou de SF en fait de ces 15 dernières années qu'ils réunissent en fait dans un seul et même projet. Donc ça fait un peu bizarre quand tu connais un peu la carrière de Zhang Yimou.
Oui, parce que c'est pas un petit jeune, Zhang Yimou.
Non, et puis c'est surtout, c'est pas un type qui a commencé dans le...
C'est ça, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître en Occident avec Épouse et concubine.
Oui. Ah, c'était chouette.
Voilà, ouais. Qui est un film pratiquement fait que de petits tableaux en plan fixe, cadré large, très...
Et moi, dans mon souvenir, c'est un joli film, en
plus. Et c'était un joli film, ouais. Ça fonctionnait bien dramatiquement et tout, mais c'est vrai que c'est marrant de voir finalement... Que l'opportunisme des réalisateurs que faire un film de festival ou faire un blockbuster au fond c'est juste répondre à des codes préétablis, quoi.
Oui, le truc intéressant avec ce réalisateur, c'est qu'il a quand même aussi dévié entre temps parce qu'il a connu des très très gros succès, même au-delà de faire des films pour Cannes. Il a fait il y a un peu plus de 10 ans maintenant, un peu presque 15 ans, Hero avec Jet Li. Et c'est, comment dire, c'était un carton atomique à sa sortie en salle à l'époque. En Chine, ça a été montré dans le monde entier. Le truc, c'est que même là, en fait, je me rappelle à l'époque, Hiro, il était sorti aux États-Unis, il était censé être tronqué. C'est Tarantino qui. Ça sortait chez les Weinstein, c'est Tarantino qui a intervenu.
Et puis, encore une fois, ça reprenait essentiellement des codes déjà vus, déjà expérimentés par d'autres. Voilà, enfin. Bon là, je te coupe en plein milieu de ton élan chef-d'œuvre, mais c'est vrai que quand on voit comment en France en tout cas ou même aux États-Unis, on traite ou on sous-traite un type comme Tsui Hark qui a nourri tout ce courant de films épiques chinois et qui n'est jamais mis en avant simplement parce que d'une certaine façon ces films sont au moment où ils arrivent beaucoup trop libres en fait dans leur forme et dans leur ton et que moi j'ai pas vu hein, la Grande Muraille, mais je vois la bande annonce et j'ai l'impression qu'on est en train de me faire effectivement un patchwork de toutes les promesses que Tsui Hark avait fait en son temps. Enfin, voilà,
ouais, mais figure-toi que le vrai problème du film, c'est effectivement qu'il n'est pas réalisé par Tsui Hark.
Bah oui,
parce que le truc, c'est qu'on...
Ouais, parce que Zhang Yimou, si on regarde sa filmo, il est plus habitué au festival de Venise, voire au festival de Cannes, parce qu'il a eu le Lion d'Or, le Lion d'Argent... en 91 et en 92, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est un type qui a été...
Ça, c'était à l'époque. Maintenant, le truc, c'est comme on a parlé de Hiro, on a parlé du Secret des Poignards Volants, La Cité Interdite. En fait, c'est des très gros films chinois, en fait, dans les années 2000, qui ont consolidé son statut de entre guillemets, faiseur de blockbusters en Chine, auteur de blockbusters dans le reste du monde. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le blockbuster hyper calibré pour le public chinois, pour le marché chinois. Et le problème, en fait, c'est que bah voilà, nous, je pense que déjà, apparemment, le public chinois n'est pas aussi dupe que les producteurs aimeraient le penser, puisque c'est pas le carton attendu. Ça marche, mais ça marche pas aussi fort que prévu. Par exemple, ça n'a pas encore détrôné les Warcraft ou les trucs comme ça qui ont été les films de l'année en Chine, donc c'est dire, quoi. Et ou The Mermaid en l'occurrence de
Chusanchi
Stephen Chow.
Stephen Chow.
Mais le truc, c'est que là où c'est complètement hallucinant, un film comme ça, c'est que voilà, nous on regarde le film, on se dit ok, donc ça c'est un plan qui est dans Le Seigneur des Anneaux, ça c'est un plan qui est dans Avatar, ça c'est un plan qui est dans World War Z, ça c'est un plan qui est dans... Et du coup, en fait, même la configuration des
Je te rappelle que d'après, je sais plus si c'est Slate ou Les Enrecuptibles ou un grand magazine culturel comme ça, Avatar n'a laissé aucune marque dans la pop culture.
Ouais,
donc surtout, c'est pas possible qu'un film films chinois reprennent des plans d'Avatar.
Non, c'est pas possible. Ouais.
Et le truc, c'est que du coup, en fait, tu te retrouves avec cette espèce de patchwork qui fonctionne pas du tout, et surtout une écriture. Alors bon, à la base, c'est un projet qui est initié par les Américains. Hein. Que je sois clair, c'est Legendary, qui a maintenant des grosses billes sur le marché chinois, qui produit Pacific Rim 2 sous cet angle-là, et d'autres films. Là, le truc, c'est que c'est un peu la même logique. Et en fait, c'était écrit à la base, je crois, c'était un projet qui était prévu pour Edward's Week. Donc, c'est te dire déjà le.
à côté de quoi on est passé, bon sang.
C'est te dire le niveau attendu, quoi. Et le truc, c'est que, le gros problème, là, je vais parler vraiment sur la construction même du film. Le gros problème du film, c'est même pas pour moi son whitewashing, c'est même pas, voilà, c'est que je pense que t'as une caractérisation de personnage, une façon de concevoir le truc, où, un, tu sens que le film a été vachement coupé au montage, ou a souffert, en fait, de son aspect multi-ethnique en fait au montage et surtout en fait tu te retrouves, enfin moi j'ai l'impression de me retrouver en face d'un dessin animé Disney d'il y a 40 ans. Alors je sais que ça va peut-être faire bondir certaines personnes ici comme Rafik, mais le truc c'est que j'ai vraiment en fait l'impression que c'est en termes de faire en sorte que les persos s'interagissent entre eux. On dépasse pas le cadre de je te trahis, mais c'est pas grave, mon ami, je te tape sur l'épaule à la fin, ce genre de truc que tu peux trouver dans des dessins animés où on est obligé d'être un peu plus. C'est un peu édulcoré, quoi. Je sais pas comment. Je dis Disney, mais peut-être que je devrais dire DreamWorks. Pour pas.
Il y a 40 ans, il n'y avait pas de DreamWorks.
Parce que la dernière muraille de Chine chez Disney, c'était dans Mulan. Ça commençait.
C'était plutôt pas mal. Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, on se retrouve avec des espèces de twists et de trahisons et de caractérisation de personnages qui sont complètement fonctionnels. Là, par exemple, les guerriers chinois, c'est quand tu les regardes dans le film, c'est clairement les elfes du Seigneur des Anneaux. Ça ne passe pas par autrement que ce prisme-là. Ils n'existent pas autrement que vis-à-vis de la loyauté qu'ils ont et leur expertise au combat, quoi. Mais voilà, donc
on rappelle Edward's Week parce que tu l'as cité, c'est le réalisateur du Dernier Samouraï, ce grand chef-d'œuvre que j'adore.
Et de Glory.
Et de Jack Reacher Never Go Back.
Et d'un film totalement inoublié qui était À l'épreuve du feu. Je me souviens.
Ok.
Pas par nous. Hein.
Non, je me permettais cette petite aparté. Couvre-feu. Des fois, vous citez des réalisateurs, je sais pas qui c'est, alors je regarde vite fait.
Non, mais Edward Zwick, tu sais qui c'est quand même.
Non, oui, je replace. Ouais.
Tu sais qu'il a ses admirateurs. Hein,
j'imagine bien.
Non, mais enfin, bon, il s'est complètement fait déposséder du projet. Donc ça se veut. Alors, ça se veut un grand film épique. Moi, après, le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais trop cru à Matt Damon en tant qu'action star. Donc là, le voir faire un peu le kéké. Au milieu de plusieurs grands acteurs chinois, ça fait un peu bizarre, quoi.
Oui, il était pas mal dans Team America, quoi.
Oui, voilà.
Donc, il a fait quelques bons films d'action.
Quoi. Ouais. Mais donc le voir en fait, avoir des espèces de plans, encore une fois, parce que quand je parle de citer des grands blockbusters, c'est que voilà, quand tu le vois avoir des plans en fait où les mecs se mettent à faire des sauts et puis t'as tous les monstres qui lui courent derrière et que tu vois donc Matt Damon plus ou moins patinant à choucroute et avec 10 bestioles qui s'écrasent derrière lui, tu vois, c'est réminiscent de. Je pourrais même pas te citer un blockbuster. Il y en a tellement ces 15 dernières années où ils font ce type de plans. C'est réminiscent de tous ces trucs là et il faut qu'il aille en Chine pour faire ça, donc c'est un peu étrange, quoi. Donc bref, la grande muraille,
quoi.
Voilà, je pense.
On vous le recommande pas,
pas vraiment, voilà. Mais c'est une des sorties et c'est une des grosses sorties de ce début d'année, quoi.
Oui, donc, puis il y a quand même un avantage si vous avez rien d'autre à voir, c'est que c'est court, 1h44 finalement, c'est pas si mal.
Oui, parce que c'est pas vraiment, il y a une logique de film épique. Alors, comme pouvait l'être Hero ou encore une fois Le Secret des Poignards Volants à l'époque ou La Cité Interdite, mais en tant que film d'action, donc c'est-à-dire que je pense que c'est là où le film pâtit de la coproduction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le public américain qui veut quelque chose de plus nerveux, plus péchu, et à la fois je pense le public chinois qui veut quelque chose de plus gros, de plus épique, de plus bariolé et flamboyant, et en fait le film se retrouve entre deux. Et ne fonctionne, à mon sens, ni sur un plan ni sur l'autre. Donc voilà. Maintenant, pour moi, il n'y a rien qu'on n'a pas vu dans un bon épisode de Game of Thrones. Voilà.
Bon, écoute, les gens se feront leur idée, hein, voilà. Mais en tout cas, vous leur avez donné quelques bonnes indications. Passons à la suite.
Et la suite, c'est un film qui va parler un peu de musique. Alors je vais mettre un peu de musique sympathique, tu vois, quelques notes de guitare.
On est bien, on est cosy là.
Ah ouais, c'est chouette, on est au coin du feu. Ah ouais, ouais. Finest girl I ever met in my whole life. Wanna take her home, make her my wife. Knew she was a freak when she started talking. She said fuck me like we fucked Bin Laden. Bon, il faut comprendre les paroles en anglais, mais le titre c'est Fuck me like you fuck Bin Laden ou un truc
like we fuck Bin Laden. Ouais,
ouais, c'est ça. C'est sympathique. C'est une des chansons que l'on retrouve dans le film Popstar dont tu veux nous parler, Stéphane.
Tout à fait. Alors Popstar, c'est quoi? C'est une production de Judd Apatow qui est sortie aux États-Unis au mois de mai dernier, je crois, qui s'est complètement plantée. Et c'est surtout en fait un nouveau film en fait d'un groupe qui s'appelle The Lonely Island.
Ah oui, 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 je vois.
Tu vois ce que c'est, The Lonely
ouais,
Island.
Ouais, c'était pas parti d'une blague, les mecs avaient fait un disque pour rigoler. Et puis
non, c'était pas ça, enfin, c'était parti d'un sketch refusé par
le SNL
qui avait été refusé qui avait été refusé par le SNL et qu'ils avaient balancé sur le net, qui était Dick in a Box.
Non, c'était bien avant, c'était encore un autre truc.
Ce qui les a vraiment fait connaître du public, en fait, c'était ce truc-là, ce sketch-là.
Alors c'est une chanson, en fait c'est une chanson de deux stoners qui vont voir Narnia, ce qui n'est pas Dick in the Box, et j'ai un trou sur la chanson, mais je vais te retrouver c'est le titre en cours d'émission. Mais en fait c'est parti de ce truc là effectivement, mais t'as raison sur le fait que le SNL ne voulait pas trop de ça, et du coup ils ont récupéré le groupe quand même derrière. Le groupe est composé notamment d'Andy Samberg, qui est devenu une star du SNL, et en fait c'est on peut dire quelque part les premiers vrais youtubeurs, on va dire, de l'époque, quoi. C'est à dire que ils sont plus ou moins émergé au moment où YouTube était en train d'arriver, et ils ont lancé en fait tout un tas de clips, dont effectivement Dick in the Box après, mais pour le coup avec SNL et compagnie, quoi. Et donc c'est un groupe qui fonctionne comme ça, avec l'envie de faire des petits trucs courts mais en chanson, quoi. Et
souvent avec une compréhension de une connaissance même de du fonctionnement de l'industrie musicale, c'est-à-dire que leur parodie, parodie de chansons sont bien produites. On voit à l'écoute que les mecs connaissent la pop actuelle, la suivent et savent même la reproduire, puisque je sais pas, il y a certaines chansons comme comment ça s'appelle, celui où doivent baiser pour la fête des mères.
Motherfucker. Ouais, c'est pas Motherfucker, mais c'est Mother Lover.
Mother Lover,
merci.
Alors il y a Justin Timberlake qui participe à ce soir.
Qui est en fait une chanson bien produite, quoi. La plupart de celles qu'ils ont faites.
Et c'est l'intérêt de Popstar, en fait, justement. C'est que moi, ce que je trouve, très intéressant, peut-être que toi, tu seras pas d'accord avec moi, Rick, il me semble que t'as pas trop aimé le film, quoi.
Ouais, mais je vais expliquer pourquoi après.
Voilà, moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans Popstar, qui sort donc en DVD maintenant, et uniquement en DVD, même pas en Blu-ray.
Direct vidéo.
Voilà, chez nous, c'est en vente depuis tout début janvier, j'imagine, à un prix mini, chez votre vendeur
habituel. Je vais te dire ça.
David, dis-nous quel est ton vendeur habituel.
Fnac.com.
Voilà.
Ou Amazon.
Voilà. Et le truc, c'est que c'est en gros, c'est le parcours en fait d'une vedette à la Justin Timberlake, j'allais dire plutôt aussi à la Justin Bieber. Et ce qui est marrant en fait, c'est cette façon, comme dans la chanson que t'as présentée là, de soi-disant faire de la politique dans des chaussons pop un peu pourries, quoi. Et là-dessus, c'est là où effectivement où leur bonne connaissance en fait du milieu musical actuel en fait fonctionne très bien et crée à mon sens les meilleurs gags du film, quoi. Mais je crois que toi, Rafik, tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi sur le sujet, quoi.
Bah, j'ai pas vraiment. Oui, j'ai eu du mal à m'arracher un sourire, en fait. Alors pas parce que les gags en eux-mêmes. Le film est plutôt bien produit. C'est le genre de gag un peu comme à l'image de Zoolander qui me fait rire dans l'hémisphère gauche et qui me fait pas rire dans l'hémisphère droit. C'est-à-dire que intellectuellement, je vois que c'est qu'il y a un gag et qu'il est bien amené, mais en même temps, mon corps ne réagit pas, je rigole pas. Mais je pense qu'il y a une raison toute simple à ça. C'est peut-être une forme de lassitude par rapport à une certaine mécanique du rire, parce que comment dire, on a depuis le début, depuis les années 90 en gros, la bande à Ben Stiller, on peut l'appeler comme ça, voilà, qui a imposé cette forme d'humour parodique au très second degré, etc., qui a amené à l'explosion de Judd Apatow, donc au début des années 80, à des films comme Anchorman, comment
lui aussi sorti en direct ou vidéo, non?
Non, c'est sorti en salle, mais ça a fait 3000 entrées.
Ouais, il y en a eu d'autres qui ont eu ce sort terrible. Ouais. Alors, je le retrouve pas en direct ou vidéo, là. Je retrouve qu'un import anglais, mais en tout cas, il est disponible.
Écoute, en France, ça s'appelle Popstar célèbre à tout prix. Excuse-moi, Rafik, vas-y.
Ouais. Donc voilà, on a eu cette forme d'humour avec Anchorman, on l'a eu avec Walk Hard, l'histoire de Dewey Cox.
Tout,
tout ça a été complètement pompé par Michael Young ensuite quand il nous a fait Fatal. Moi, je trouve qu'il l'a bien fait, au sens où il avait compris les ressorts de cet humour-là. Et maintenant, quand je vois Popstar, j'ai l'impression qu'il arrive après toute cette enfilade, en fait, tu vois. Et j'ai plus trop de surprises.
Non, mais l'intérêt, j'imagine, enfin, c'est ce que je disais aussi en premier lieu, c'est que l'intérêt du film pour moi, à ce niveau-là, c'est justement la façon, en fait, dont il récupère se fout de la gueule de toutes les vedettes ultra-narcissiques que tu trouves aujourd'hui, les Lady Gaga, les Justin Bieber, c'est les mecs comme ça, en fait, qui. La première chanson, le film s'ouvre sur une chanson qui s'appelle I'm So Humble. Je suis humble. Et en fait, c'est un mec qui chante sa gloire, sa propre gloire. C'est le personnage principal qui chante sa propre gloire en prétendant qu'il est humble. Et voilà, mais.
Je sais pas,
je trouve que ça ressemble vraiment. Je trouve que ça ressemble vraiment. En fait, c'est plutôt bien vu, je trouve, par rapport à.
Le seul truc qui m'a semblé pas forcément violemment critique, c'est pas le but du film non plus, mais rigolo dans la façon avec laquelle vous foutez un peu de la gueule des dispositifs. De ce genre de musique, c'est le DJ qui au fur et à mesure ne sert de plus en plus à rien, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin il en est réduit à mettre son iPhone sur scène. Voilà, bon, ça à la limite ça pouvait me faire marrer.
Ouais, si tu tanches un peu David Guetta et compagnie, quoi.
L'arrivée en fait, voilà, de formules musicales prédéterminé par des algorithmes et qui font que le musicien n'a absolument plus rien à faire par derrière, ça à la limite ça, bon. Mais tu vois, par exemple, j'ai découvert l'année dernière cette production HBO avec Andy Samberg qui s'appelle 7 Days in Hell,
un mockumentaire,
voilà, qui est un mockumentaire qui est basé en fait plus ou moins sur un truc qui s'était vraiment passé à Wimbledon avec un match de tennis qui n'en finissait pas. Et donc c'est un truc avec Andy Samberg et Kit Harington dans les rôles principaux, qui sont donc deux joueurs de tennis qui sont engagés dans un match sans fin, donc qui va durer 7 jours. Et donc fait sous la forme d'un documentaire. Kit Harington, il joue basiquement une espèce de débile mental. Andy Samberg, il joue le personnage d'Andy Samberg, il est pas loin d'ailleurs du personnage qu'il joue dans Popstar, le type absolument amoureux de lui-même, un point ultra excessif, mais le simple fait qu'on ait déplacé ça vers un milieu peu ou pas traité par la comédie, qui est celui du sport et du tennis, tout d'un coup ça renouvelait le stock de gags.
Un peu comme Anchorman à l'époque, quoi, mettais ça dans
c'est
un...
Ça. Ouais. Mon reproche pour Popstar, c'est pas que c'est un mauvais film en soi, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu des bouts de ce film un peu partout, tu vois, c'est ça qui m'a gêné.
Mais l'idée en tout cas sur le truc, c'est que moi j'ai retrouvé un peu le titre du sketch dont tu parlais en premier lieu, c'est Lazy Sunday. L'idée en fait, c'est de faire vraiment, en fait, avec ce film là à mon sens, c'est dommage que ça sorte pas en salle en France, même si à mon avis ça serait complètement planté, vraiment de faire un petit coup de projecteur sur The Lonely Island, qui moi ça me fait beaucoup rire depuis une dizaine d'années, quoi.
Ils avaient d'ailleurs fait une chanson extraordinaire dans les 40 ans du SNL, moi je trouve que
c'était avec Adam Sandler.
Ouais
c'est ça, ouais,
superbe,
c'est... Ouais, ouais.
Vraiment très très beau.
Non mais ils ont plein de
talent,
ouais et puis ils vont chercher Rihanna, ils vont chercher Michael Bolton, ils vont chercher Justin Timberlake, ils vont chercher plein de vedettes, en fait, qui certaines font leur une apparition dans Popstar, notamment je crois Michael Bolton, il est à la fin du film, ils connaissent très bien. Mais il n'y a pas que ça, en fait, ils ont fait aussi plein d'autres sketchs, en fait, qui sont des petits sketchs conceptuels et qui ont une logique qui est très propre à Internet, en fait. C'est de l'humour soit répétitif, soit ultra geek, en fait, qui fonctionne sur voilà. Il y a un sketch avec Punching People in the Faces, qui est fait par Andy Samberg, et c'est principalement en gros Andy Samberg qui chaque fois que quelqu'un, en fait, s'apprête à manger un morceau, t'as Andy Samberg qui vient, qui leur met un pain dans la gueule, quoi. Et en fait t'as une espèce de ritournelle comme ça, en fait, autour du truc, et enfin c'est des sketchs, c'est uniquement sur internet, tu peux pas faire ça, je veux dire, t'imagines ça il y a 25 ans dans une émission, même dans le Saturday Night Live il y a 25 ans, ça serait jamais passé, les gens n'auraient pas compris ce que ça voulait dire, clairement, tu vois, ouais. Et là c'est des sketchs qui s'adressent à la fois aux internautes, on va dire, entre guillemets, et même si c'est très large comme terme, quoi, mais en même temps c'est complètement compréhensible et hilarant, quoi, donc comme ces gens sont un peu, enfin comme Daniel Island, ils étaient un peu sur le devant de cette scène pour moi. En tout cas, c'est eux qui l'ont énormément popularisé. Voilà, je pensais qu'il fallait peut-être leur rendre un peu à César ce qui appartient à César et profiter en fait de cette actu pour préciser que voilà, Popstar sort en DVD. Et,
oui. Alors justement, chez nos amis d'Amazon, je l'ai retrouvé grâce au titre Popstar célèbre à tout prix et pourquoi je l'avais pas trouvé, parce que j'avais tapé Popstar Blu-ray et évidemment en France, il n'est pas sorti en Blu-ray. Donc on a droit qu'à un pauvre DVD qui est bradé à 6,99€. C'est pour dire à quel point Universal.
Ouais, et puis c'est quand même drôle parce que du coup tu te dis tous ces clips en fait, tous ces trucs qui parodient, tu peux les voir sur internet en 1080p, 60 images secondes, et là tu vas voir les parodies en DVD 480 et voilà quoi. Donc
bon, il y a une copie, il y a une Blu-ray anglais
et américain, ouais.
L'américain, enfin l'anglais, alors je regarde. Alors,
moi j'ai pas le Blu-ray, mais le truc c'est que je suis sûr qu'il doit y avoir pas mal de scènes coupées parce que c'est le genre de film typiquement en fait où à mon avis ils ont dû énormément écrire en fait de parodies et de d'événements en fait qui ont vraiment eu lieu sur la scène musicale et qui je pense sont peut-être trop obscurs et ont été coupés. Enfin ça sent que le film comme il est très court, ça sent qu'il y avait beaucoup plus de matière en fait à la base quoi et qu'ils ont privilégié le rythme pour faire un film, je pense, rapide et fun, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est Popstar, donc célèbre à tout prix, encore un très beau... Il fallait mettre à tout quelque chose, quoi, quelque part, à tout prix, tu vois, comme Marie à tout prix, quoi, pour vendre ça chez nous. Enfin, bon, pour une bouchée de pain, apparemment. Et donc, ça sort en DVD, et voilà.
Popstar, célèbre à tout prix malgré lui.
Voilà.
Et oui, c'est dramatique. J'aime bien le drame aussi. Et je vais mettre un petit peu de musique tout aussi douce que tout à l'heure, mais tout aussi agréable aussi. Et je me tourne vers Rafik.
Ouais.
Tu vas nous parler de Sense8. Alors, il y a eu un épisode spécial pour...
Un Christmas special.
Ah, j'aime bien les Christmas specials.
De Sense8.
Sense8, est-ce que tu peux nous recabler...
Alors pour ceux qui n'écoutent jamais les podcasts et qui voilà qui ne lisent pas Capture, Sense8 est une série des Wachowski qui est donc produite pour la chaîne HBO, pardon, je dis pas de bêtises,
Netflix,
merci. Qui a donc une saison dans les pattes qui fonctionne un peu sur un modèle qui pourrait faire penser à leur film Cloud Atlas et qui donc met en scène différentes personnes qui sont mystérieusement connectées psychiquement aux quatre coins du monde et qui vont apprendre à gérer cette connexion particulière qui les unit et d'essayer de comprendre en fait ce qu'elle signifie
tout en étant
plus ou moins poursuivi par une mystérieuse organisation qui a assassiné celle qui est présentée comme leur mère, celle qui leur a donné vie, c'est-à-dire donné vie en tant que Sense8. Voilà, donc comment dire, c'est une série qui regorge de thèmes que les Wachowski développent dans leur carrière depuis les tout débuts, sur les questions notamment de choix et d'identité, où on a gagné un cran justement depuis que les deux frères sont devenus les deux sœurs. Alors justement à ce propos, donc moi je vais faire peut-être un avant-propos, on se pose la question avec Stéphane ces derniers temps de savoir comment on les appelle, parce qu'on a évidemment l'habitude nous de les considérer comme les Wachowski.
C'est comme ça qu'ils signent la série, hein. Il y a marqué réalisé par The Wachowski.
Mais de ne pas employer le pronom elle pour en parler. Alors donc il est bon de le préciser. Là je parle moi personnellement. Après Stéphane donnera peut-être son opinion là-dessus. Donc moi j'ai évidemment aucun souci sur les choix de vie qu'ils ont fait, notamment donc de changer de sexe. Mais en fait j'ai quand même un petit problème sur l'imposition de nouveaux prénoms et de nouveaux pronoms. D'abord parce que ça me trouble, parce que je suis un vieux et que j'ai besoin d'avoir des cases bien, voilà, bien plantées. Mais aussi parce que ça relève d'un paradoxe à mes yeux, et que le paradoxe qui est entre un choix qui est un choix intime, un choix de vie intime, et une imposition sociale en fait. Comme si, parce que le prénom et le pronom sont des conventions sociales, et donc c'est assez particulier. Je trouve ça bizarre de vouloir lutter contre les conventions en affirmant son identité, en l'occurrence son identité de femme, et en même temps se référer à ces conventions en demandant avoir un nom qui donc, selon les conventions, est un nom de femme.
Ouais, je sais pas si donc, c'est elle qui le demande, hein, pour le coup. Enfin, je sais pas si les, parce que alors il faut savoir aussi que Lana a changé de.
Donc Lana a été la première.
Voilà. Et depuis,
on a donc Larry qui est devenu
Andy,
qui est devenu Lily. Et qui d'ailleurs ne participe pas, ce que j'ai compris, à la saison 2 de Sense8. Ni à ce Christmas Special, qui est donc réalisé par Lana. Donc voilà, je vais tâcher de rester sur les prénoms féminins, mais faut m'excuser si je... Si dans la conversation je déroute quoi. Voilà. Mais cette intro n'est pas entièrement gratuite parce qu'elle fait aussi elle fait écho à une problématique que j'ai eue vis-à-vis de ce Christmas Special, dans la mesure où comment dire la première saison de Sense8 mettait entre autres en scène un personnage qui avait justement changé de sexe, donc il était difficile de ne pas voir l'expérience de Lana qui a raconté à travers ce personnage là sachant qu'en plus il y avait eu Jupiter Ascending avant, qui déjà était un écho de cela, puisqu'il avait l'ambition, là je parle de Jupiter Ascending, de revisiter le mythe héroïque sous une perspective justement de sensibilité féminine, avec des tas d'histoires, de questions d'ovaires et tout ça qui étaient assez explicitement mises en scène. Sauf que Sense8 avait eu l'élégance de ne pas faire, à mes yeux en tout cas, de ne pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire d'éviter le militantisme d'une certaine façon. Les personnages trans ou homo que le film était en scène, et nous était simplement présenté, comment dire, c'est comme ça et puis c'est tout. Ça a affecté bien sûr leur vie et certains des événements qu'ils vivaient dans la série, mais on sentait pas derrière une envie justement d'imposer une idée à travers eux. Tu vois. Ils étaient d'abord et avant tout traités comme des personnages. Et ça m'avait bien plu. Et là, sur ce Christmas Special, à ma grande surprise, il y a une forme de prosélytisme qui m'a sauté à la figure, où là vraiment les enjeux de sociaux, la résistance sociale que ces personnages rencontrent, et on insiste beaucoup dessus, et notamment par rapport à l'acteur mexicain qui vient en couple, dont l'homosexualité a été révélée au grand public, et qui se retrouve tout d'un coup larisé, sifflé par les gens et tout. Il y a une espèce de drama autour de ça que j'ai trouvé pas très habile de la part des vachos, parce que quand même l'ambition à la base de Sense8 derrière cette thématique là, je pense que ça a toujours été de parler d'amour et de connexion, et ils avaient donc réussi à faire en sorte qu'on se fiche complètement des choix de vie des personnages tant que on était focalisé sur les émotions profondes qui les unissaient. Et là, j'ai l'impression que ces émotions profondes, elles passent un petit peu à l'arrière-plan par rapport au contexte social qui entoure ça. Donc voilà, ce prosélytisme m'a gêné.
Alors moi, j'ai pas vu le Christmas Special, j'ai vu toute la première saison, évidemment. Mais j'ai une question. Est-ce que ça fonctionne comme des fois certains Christmas Special comme ça, où les mecs se sentent obligés, parce que là il y a la saison 2 qui arrive.
Oui.
En l'occurrence, il y a que Lana qui sera dessus. Et le truc, c'est que est-ce que ça fonctionne comme une espèce de digeste en fait de la saison 1?
Alors oui, il y a.
Et du coup, par la force des choses, ça devient moins.
Il y a un aspect manifestement best-of, c'est-à-dire que bien sûr, ils ont identifié ce qui avait plu au public dans cette saison 1, et qui du coup là devient un peu comme une espèce de cadeau qu'on lui fait, c'est-à-dire qu'on a une séquence, des séquences de baston à plusieurs, c'est-à-dire qui se passe où les différents personnages se passent le relais psychique. C'est d'ailleurs d'une certaine façon, je trouvais même beaucoup mieux fait que ce qu'on avait, ce à quoi on avait droit dans la série, notamment en termes de montage. Enfin, il y a une séquence, je pense que là aussi on voit la maîtrise de Lana là-dessus, où on n'est pas loin presque du concept de super-héros dans le passage vraiment d'un pouvoir à un autre. Et bien sûr des espèces de mini clips, c'est-à-dire l'arrivée d'une chanson pop assez connue, souvent sous forme de reprise, qui tout d'un coup mêle ces personnages dans un même élan fraternel, etc. Donc ça, encore une fois, dans la série, dans la saison 1, ça arrivait souvent un peu, je trouve, comme une surprise. On ne s'attendait pas forcément à avoir ce genre de séquences qui déboulent tout d'un coup. Là, dans ce Christmas Special, elles sont attendues. Et aussi, donc, une séquence d'orgie, comme on en avait eu une très belle dans la saison 1. Là, on en a une autre.
Tu le vends bien, là.
Voilà, on en a une autre qui est encore plus élaborée en termes visuels, mais du coup moins efficace, parce qu'encore une fois, elle apparaît j'aime pas ce mot-là, mais je le déteste parce que c'est typiquement le mot que la critique française aime bien utiliser, mais là je vois pas, un peu gratuitement en fait. Et encore une fois, de la part d'Eva Chaux, ça m'a troublé. Ceci dit, donc je le reconnais. Une forme de, comment dire, non pas d'être des sales gosses, mais on sait que le Christmas Special, par tradition, c'est un spectacle familial. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui a toujours été vécu comme un spectacle de regroupement familial où les valeurs de Noël sont mises en avant, et bien sûr, Noël étant une fête éminemment chrétienne, c'est évidemment cocasse de faire un Christmas Special avec de grosses partouzes transgenres et homo dedans.
Mais j'imagine qu'il joue la carte en plus jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il joue la carte jusqu'au bout, Christmas Special jusqu'au bout.
Voilà, il joue la carte Christmas Special jusqu'au bout, c'est vraiment vécu comme quelque chose de festoyant et de message christique, paix et amour chez les hommes de les femmes et les transgenres et les homos de bonne volonté. Donc dans la scène d'orgie qui nous est offerte, elle est curieusement assez pudique, presque comment dire, un peu expurgé d'une certaine façon de toute sexualité au profit d'une sensualité.
C'est pour les enfants.
Limite publicitaire. Ça pourrait être une pub pour parfum un peu in, quoi, si tu veux, au sens où elle est vraiment. Voilà, c'est des jolis corps bien découpés, entremêlés, où il n'y a aucun poil qui dépasse. On est loin du godmiche visqueux de l'épisode 1, par exemple. Ça aussi, ça m'a. Alors, je le comprends dans le contexte du Christmas Special, donc il y a un côté clin d'œil un peu dans ce truc-là. Un petit côté fuck you à certaines valeurs conservatrices chrétiennes. Mais j'aurais aimé un peu moins de. Ouais, un peu moins de prosélytisme sur la.
Écoute, moi, je n'ai pas vu le Christmas Special. Le seul truc que je pourrais dire par rapport à la saison 1, qui est évident pour moi et vis-à-vis de ce thème-là, le thème LGBT, on va dire, c'est que pour moi, c'est ceux qui ont la légitimité absolue pour le faire, dans le sens où, dans la société actuelle, l'idée de te moquer, en fait, vis-à-vis. Enfin, de pas te moquer, mais de te. du doigt que tu devrais avoir certaines.
Ils ont la légitimité, mais jusque-là, ils avaient aussi. L'intelligence. Je préfère l'intelligence à la légitimité. C'est-à-dire que vraiment, la façon avec laquelle Lana, notamment, a travaillé cette question-là depuis longtemps, et je veux dire, elle a donné des conférences sur le sujet, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui perfuse les Matrix, qui est déjà visible dans Bound, enfin, sur toute la carrière de
Jupiter Ascending.
Jupiter Ascending, etc. Et Cloud Atlas, enfin, tout ce qu'ils ont fait.
Non, clairement.
Voilà. Il y a une cohérence par rapport à cette question de l'identité, mais elle n'a jamais pris la forme de on va dire d'un militantisme un peu graveleux. Alors on n'est pas dans le graveleux là, hein. Reste à un bon niveau, parce que ils ont toujours mis en avant l'essentiel, c'est-à-dire les personnages, le récit, ce qui nous, pour nous en tout cas, toi et moi, sont le fond. Tu sais qu'on n'aime pas qu'on nous donne des leçons politiques, quelles qu'elles soient.
Mais précisément, le truc que je veux dire, c'est que pour moi, là où je parle de légitimité, c'est qu'ils sont plus légitimes, eux, que moi, ou les millennials qui nous donnent des leçons sur le sujet, en fait, tout simplement, quoi.
Oui, mais, bien sûr. Voilà. Mais justement, j'aimerais bien qu'il reste éloigné de toute cette agitation un peu puritaine et stérile, et qu'il garde l'intelligence qu'ils ont eue jusque-là. Or là, bon, encore une fois, je veux pas être méchant, j'ai regardé ça avec plaisir et tout, j'ai juste de temps en temps un petit peu tiqué en me disant « Ah, les vachos !» Voilà.
Là, wachos, êtes... parce que là, ils
étaient... Là, wachos, voilà. T'étais quand même vachement plus fine sur le.
Mais est-ce qu'on peut dire pour boucler le truc du coup, c'est que si on se tape cet épisode-là, parce qu'il faut savoir que les séries télé, on les regarde un peu comme des cinéphiles à la base, c'est-à-dire qu'on se tape tout quoi. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui, quand ils ont le recap de début, c'est parce qu'ils ont pas vu trois épisodes avant, ils se disent ok, donc cet épisode je peux reprendre et du coup regarder une série comme voilà. Alors je sais que sur Netflix c'est du binge, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le Christmas Special, c'est une manière d'annoncer la saison 2 et de dire voilà,
oui,
vous avez tout un résumé de la série.
Déjà,
et paf, on
n'a pas, un résumé de la saison 1, on a comment dire, on a aussi l'impression, et ça c'est normal sur un Christmas Special, de faire du surplace narratif. Et d'ailleurs, ça crée un peu un décalage narratif, puisqu'il n'y a qu'un seul récit dans lequel il y a un véritable enjeu dramatique et de suspense, qui est la relation entre le flic là, Will, et la chanteuse Riley, quoi, qui sont... poursuivi par cet homme mystérieux, la Mr. Whispers, c'est le seul vrai drame important de cet épisode. Le reste, on frôle l'anecdotique. On a Kala, l'Indienne, qui est mariée, qui sent que son mariage part un peu en vrille. On a Sun, qui, en gros, ne bouge pas du début à la fin de l'épisode, elle reste dans sa cellule. Enfin, s'il lui arrive un truc, mais je vais pas spoiler ce que c'est, mais c'est pas très important. Et donc, Lito et son amant, dont l'homosexualité a été révélée et qui doit se confronter à ça. Voilà, l'histoire de Kala et son mari, qui est la partie comédie du récit.
Ouais.
Voilà, c'est bon, elle est gentille, quoi. C'est pas à se taper la cuisse non plus. Mais surtout, bon, on a l'impression que ça n'a pas tellement bougé depuis le dernier épisode de la précédente saison. Mais ça, à la limite, c'est le cas traditionnellement sur les Christmas Specials.
Ok,
très bien. Bah, merci beaucoup. Ça m'a quand même donné envie de regarder ça. Donc voilà, c'est intriguant en tout cas. Bon, on va s'arrêter là, les amis, pour ce petit podcast hebdomadaire. Hein, on se retrouve la semaine prochaine. Réveillez-vous,
prochaine,
hein, réveillez-vous.
David.
On
se retrouve la semaine prochaine, David.
On se retrouve toujours la semaine prochaine. Toujours une semaine où on se retrouve. Voilà. Bref, n'oubliez pas d'aller nous voir sur capturemac.net, d'aller lire vos beaux articles, d'aller écouter les autres podcasts si vous ne les avez pas fait, d'aller sur iTunes.
Mettre des étoiles.
Mettre
5 étoiles, hein,
5.
Pas moins.
Non, pas moins. Mais après, vous pouvez nous laisser un commentaire en nous insultant.
Voilà, mais si vous mettez 5 étoiles.
Voilà, seulement si vous mettez 5 étoiles. Ensuite, vous allez sur Twitter. Il y a aussi le Twitter de CaptureMag.
CaptureLeMag.
CaptureLeMag. Et puis il y a le Facebook aussi.
Voilà, Capture Mag.
Et puis il y a Arnaud Bordas sur Facebook aussi.
Voilà. Alors, lui, il n'est pas ici, donc il est sur Facebook.
Il tweet beaucoup. Il
Facebook beaucoup.
J'avais remarqué aussi.
Il aime bien être tagué. Il faut le taguer, Arnaud.
Taguons-le en permanence. Bon, bah merci beaucoup, les amis.
Merci, David.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.